Ah, mon nom, c'est Jean-Yves Terlin. Raconter ma vie, ça va être un petit peu court, un peu long. On va commencer par quoi ? Une chronologie que tout le monde connaît. 1960, il y a Chichester qui gagne la transat anglaise, la première. En 64, c'est Tabarly qui gagne. La France découvre un petit peu la navigation à voile. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de marina. Les gens qui naviguent sont peinards. Et ils s'entendent bien avec les pêcheurs partout sur la Bretagne. On se met à couple, on échange des trucs. Bon, enfin bref, moi j'avais à ce moment-là pas... On en était où ? Oui, alors 64, Tabarly gagne, la transat anglaise, France Soir, Champs-Élysées, tout le machin. Moi j'avais 19 ans. Et puis comme il était danger, enfin il est navrier Tabarly, la famille habite là-bas. Et j'avais des copains qui allaient, après l'année d'après, qui allaient faire le film de la victoire sur Pendwick 2. Et puis ça m'avait bien plu cette histoire-là, mais moi on me demandait pas trop d'aller faire ce truc-là parce que j'étais pas le plus doué de la bande, quoi. À Angers, où je suis né, il y avait le club de la voile, CVA, et il y avait les scouts marins. Et on naviguait sur la Maine, qui est un petit bout de rivière qui permet au Loire, à la Mayenne et à la Sarthe de se jeter dans la Loire à Bouchemaine. Et c'est là qu'on naviguait. Sur des Vauriens, c'était le tout début des Vauriens. Enfin bref, en 68, je me retrouve avec un bateau de chez Vauquier qu'on me prête pour faire la transat anglaise. Donc je finis 10e, alors je me dis que pour les 4 ans après, il y avait rien d'autre à foutre pendant 4 ans, il fallait réfléchir à la suivante. J'ai dessiné un bateau, un monocoque, parce que je préférais un monocoque quand même, et qui a des chances de ne pas se faire battre par les multis, donc qui commençait à casser un peu moins. Donc j'ai fait un monocoque de 39 mètres qui s'appelait Vendredi 13 et qui avait 3 mâts, 3 phoques baumés, facile à manœuvrer finalement. On peut manœuvrer une petite bagnole et puis un camion, hein, il suffit de faire attention. Voilà, et puis après ça s'est enchaîné. En 69, il y a le chantier Dufour, la Michel Dufour, pour qui je faisais des stands au salon nautique, qui a accepté de m'envoyer un arpège à San Francisco pour l'emmener au Japon. Et je me retrouve encore avec Tabarly, qui fait premier, avec un plan spécialement dessiné pour cette course-là, qui était le Pendwick 5, avec des ballastes. La taille des bateaux était limitée à 10 mètres quelque chose. Moi, l'arpège était un peu plus petit, mais ça fait rien. J'ai fini deuxième, donc j'étais bien content. J'ai fini mon premier tour du monde en avion en passant au-dessus du Vietnam et du Cambodge, où c'était déjà la guerre. Enfin bref, on était partis pour une bonne série. Toujours est-il que les multicoques, pendant ce temps-là, faisaient des progrès. Et 4 ans après, toujours pareil, le rythme 60, 64, 68, 72. 72, je donne mon bateau le vendredi 13 à Yvon Fauconnier, qui était un bon copain. Et je trouve un bateau en Angleterre qui s'appelait British Oxygen, qui était un kata construit pour la vitesse pure. Allez hop, je me débrouille pour avoir ce bateau-là. Et cette année-là, il y a eu quand même 3 belles dépressions sur le parcours et le bateau s'est coupé en deux, quoi. Donc, Fauconnier, lui, il a eu un pépin, fracture du bras, du machin et tout. Et on s'est retrouvés tous les deux à Terre-Neuve comme des cons. Et pendant ce temps-là, Alain Collat lui avait fait construire un grand monocoque, encore plus grand que celui que j'avais en 72, donc on est en 76, et lui, et ben c'était le fameux club méditerranéen qu'il a manœuvré malgré tout, malgré s'être fait arracher le pied quelques mois avant à la Trinité, sur le fameux trimaran avec lequel il m'avait battu en 72, donc voilà, et puis après, ben, c'est les multicoques qui commencent à être indispensables pour gagner des courses. La route du Rhum, et puis plein de courses, quoi. La Rochelle, Nouvelle-Orléans, et de suite. Jusqu'au jour où il y a Janto qui gagne le Bog Challenge, qui était une course autour du monde en solitaire, évidemment. Moi, j'ai toujours navigué en solo. Et je me dis que ça me plairait bien, quoi, histoire de faire le tour une fois, même en s'arrêtant. Donc, le parcours, c'était Newport, Cape Town, Sydney, Rio. et Newport. Donc je fais un bateau à monocoque à nouveau pour faire cette course-là. Après, je finis troisième. Je reprends le même bateau pour refaire la transat anglaise où je finis premier des monocoques. Et puis un an après, c'est le premier Vendée Globe. Et là, je repars avec le même bateau qui avait le premier mât en carbone. Mais malheureusement, le mât, il n'a pas voulu faire un deuxième tour. Il est au fond du côté des Kerguelen. Et puis je suis rentré à Cape Town sous gréement de fortune et je suis arrivé, c'est pour ça que c'est facile de se souvenir de l'époque, c'était la veille de la sortie d'une prison de Nelson Mandela. Donc c'est une petite consolation, j'ai assisté à un événement historique. Et puis voilà, et puis maintenant on est ce bateau-là là en question, il est resté un petit peu à l'abandon pendant 6-7 ans parce que j'avais des salades avec la TVA, des trucs comme ça. Donc c'était un petit peu la fin de ma carrière de coureur. Et puis quand j'ai réglé toutes ces histoires-là, je me suis dit que j'allais le modifier parce qu'il était trop lourd et trop solide pour continuer à faire de la course. Et j'en ai fait celui qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Columbus. Et qui maintenant est devenu l'ambassadeur, le bateau ambassadeur du WWF. Donc c'est pour ça qu'il y a des pandas partout. Et il sert à la fois de navire pour des études scientifiques sur les cétacés en Méditerranée, et aussi de petite ambassade, de lieu de rencontre dans les grandes réunions comme Brest 2008. Voilà.
Alors, j'ai fait trois questions d'un coup, là. Ouais, alors donc sur Brest 2008, qu'est-ce que tu vas essayer de faire avec le bateau
Je n'essaye jamais rien, moi je fais des choses. Et puis je les fais, et puis quand c'est à faire, c'est fait. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Ici on va faire bistrot. On va avoir une petite exposition sur le bateau qui explique ce que le WWF essaie de faire comprendre aux gens. Et puis je vais recevoir les chefs d'entreprise qui adhèrent à la philosophie de l'association et qui lui donnent un coup de main. Donc pour les remercier, on va les emmener passer le cap de la chèvre le dernier jour de la fête.
Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais finalement nous raconter une anecdote de marin que tu as vécu?
Oui, je pourrais, mais il faut choisir laquelle. Une anecdote. En 69, quand je suis arrivé au Japon, après 50 jours de mer sur un arpège, donc San Francisco, Tokyo, on n'arrivait pas tout à fait à Tokyo, c'était un petit port de pêche à l'entrée, un peu avant la baie de Tokyo. Et je vois un bateau, une voile, il n'y avait pas beaucoup de bateaux à cette époque-là dans le coin. Et je reconnais petit à petit que c'était le Pendwick 5, donc d'Eric. Mais il allait dans l'autre sens. Donc pendant un quart d'heure, je me suis dit, il est perdu, il ne sait pas où il est, je vais l'avoir, je vais gagner, il sera deuxième. Et puis quand je suis arrivé, je me suis découvert qu'il était là depuis une semaine et qu'il repartait faire un petit tour peinard dans la mer intérieure du Japon.
Merci.